En 2018, très exactement 5 ans après son inauguration, le Louvre-Lens s'est lancé dans un vaste processus qui consistait à se réinventer de la cave au grenier, ou presque, en tout cas à se réinventer, à définir à nouveau ses priorités pour 10 ans. Rien que ça, il s'agissait tout simplement de reprendre un document fondamental, imaginé en 2008, 10 ans plus tôt, le PSC pour Programme Scientifique et Culturel. En 2018 donc, le premier PSC a 10 ans et le Louvre-Lens n'en a encore que 5. Il a déjà acquis un certain recul sur lui-même, sur son fonctionnement, sur ses visiteurs et sur le territoire qui l'entoure. Le public s'est déjà pressé à l'intérieur de la galerie du temps, des coulisses ou du pavillon de verre. Plusieurs expositions temporaires de première envergure ont marqué les esprits par la qualité de leur programmation. Mais déjà, l'envie de faire évoluer le musée se fait sentir pour adapter le Louvre-Lens à un environnement culturel, social, technologique, économique et politique qui a considérablement évolué. Parce que oui, les choses vont vite au cours des années 2010. En 2018 donc, l'idée s'impose comme une évidence, il faut écrire un PSC 2, un nouveau projet scientifique et culturel pour un musée qui ne ressemble déjà à aucun autre et qui est bien décidé à tracer son sillon. Ce n'est évidemment pas un projet qui s'écrit sur un bout de table en quelques jours, un principe s'impose immédiatement, le nouveau PSC sera collectif, dense, creusé en profondeur. Hors de question en somme de l'écrire dans son coin, c'est tout le territoire qu'il s'agit d'embarquer dans la réflexion. 5 ans après la naissance du musée, pourquoi se lancer dans un processus d'une telle envergure? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement qu'un PSC? En quoi cela consiste-t-il? Comment s'organise-t-on? Avant d'évoquer cette aventure et toutes ces questions avec les 3 invités de ce nouvel épisode du podcast consacré aux 10 ans du musée, Juliette Guépratz, Dominique de Fonréau et Natacha Lacroix, j'aimerais commencer par citer quelques mots de Marie Lavandier, qui m'expliquait, en préparant cette émission, que l'idée de concevoir un nouveau PSC lui trottait déjà dans la tête au moment où elle préparait sa candidature à la direction du Louvre-Lens. Quand je suis arrivé fin 2016, le musée avait ouvert ses portes 4 ans avant, j'avais le sentiment qu'il était à la croisée des chemins, qu'il risquait un peu de perdre son ADN, avec une scène, un parc qui n'était pas nécessairement mis en avant, une politique de voisinage peut-être moins suivie que nous l'avions souhaité. Le musée peinait à se raconter et il y avait, me semble-t-il, un véritable enjeu à nous repositionner à un moment où la gouvernance et l'équipe avaient profondément évolué. Il me semblait très important de refonder le pacte de Louvre-Lens, mais de le refonder avec tous les agents, d'une part, aussi avec nos partenaires, nos visiteurs, tous les habitants, des enfants aux adultes. Je tenais à ce que ce soit un travail collectif. Le décor étant planté, je me tourne désormais vers les 3 invités qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Bonjour et bienvenue mesdames. Merci d'être autour de cette table à ces micros. Juliette Guépratz, d'abord bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la stratégie du Louvre-Lens et c'est vous qui avez en quelque sorte piloté le projet entre 2018 et 2020, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Dominique de Fonréau, à présent. Madame, vous êtes directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Louvre à Paris. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration du Louvre-Lens et vous avez participé au comité d'orientation du PSC saison 2, si je puis dire et si je ne me trompe pas.
Absolument, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup.
Natacha Lacroix, enfin. Madame Lacroix, vous êtes l'ancienne directrice de l'IUT de Lens. Vous êtes maître de conférences en psychologie à l'Université de l'Artois. Vous avez participé, vous aussi, à cette grande aventure du PSC2, dont le but, c'était d'imaginer le Louvre-Lens à horizon 2030, c'est ça?
C'est ça.
Très bien. Nous ne sommes qu'en 2022. Il reste encore une longue route à ce PSC, conçu pour 10 ans. Mais avant d'explorer avec vous 3 les motivations de ce projet, qui se déploie depuis maintenant 2 ans, j'aimerais rappeler brièvement une évidence. Rome ne s'est pas faite en un jour, le PSC 2 non plus. Il a fallu plusieurs mois pour le mettre au point, 4 grandes étapes, je crois. Une consultation publique en mars 2018, une double phase d'écriture collective du printemps à l'automne 2018 à peu près, la première à l'intérieur du musée, la seconde à l'extérieur du musée avec les partenaires, et enfin en décembre 2018, la présentation du texte devant le conseil d'administration, puis sa publication.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Et bien, le premier thème que j'aimerais évoquer sont justement ces 4 étapes. On peut peut-être commencer avec vous, Juliette Guépratz. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui ont conduit à cette organisation en 4 étapes? Revenir sur ce premier temps, cette consultation publique, les temps forts? On m'a parlé d'un séminaire dans une bergerie qui a semble-t-il laissé un souvenir assez mémorable.
Oui, et une odeur aussi. Alors, le principe de ce projet scientifique et culturel, c'était effectivement de jouer collectif, notamment pour inscrire le musée et son projet dans un territoire. Et donc, notre point de départ, c'était vraiment l'avis du public et aussi des habitants. Donc, la première phase, c'était une consultation auprès des... auprès des visiteurs et des visiteuses, auprès des enfants visiteurs et visiteuses, mais aussi auprès des habitants et des habitants qui ne sont pas forcément visiteurs du Louvre-Lens. Le but, c'était de relever auprès de ces publics les points de satisfaction, évidemment, les valeurs qui nous sont attachées, de manière à ne pas les quitter, à bien les enregistrer et les considérer comme des piliers de notre identité, de notre ADN. La deuxième phase consistait, c'était la phase la plus longue, à construire ce projet collectivement avec les agents du musée et tous les agents, donc les agents de l'établissement public de coopération culturelle. Alors il y a la com, il y a le service des expos, il y a la médiation, il y a les services administratifs aussi, dont on parle peut-être un petit peu moins. Mais il y a aussi les équipes d'accueil, de sécurité et de nettoyage qui ont été embarquées sur presque un an de groupes de travail très réguliers, 150 heures de réunions sur le projet scientifique et culturel. Donc c'est un effort collectif, véritablement. Et à la fin de cette phase... Oui, à la fin de cette phase, au moment où on aboutissait effectivement au plan du projet, on a souhaité regrouper les partenaires sur des points saillants du projet, le tourisme, l'éducation, la question du parc, la question de l'urbanisme aussi, l'inscription du musée dans un urbanisme, dans une organisation de ville. Pour mettre à l'épreuve ce qu'on était en train de produire, aller plus loin aussi, et aller plus loin avec les partenaires et commencer à engager des actions. Et la dernière phase, ça a été l'écriture. Deux mois d'écriture, sans lever la plume. L'idée était vraiment d'avoir un objet cohérent à la fin pour le présenter au conseil d'administration, qui l'a adopté à l'unanimité.
D'accord, c'est important cette phase, cette idée qu'on se plonge dedans et on ne fait pas ça en même temps qu'autre chose.
Oui, tout à fait. Écrire ce projet scientifique et culturel était déjà un projet. C'était un projet d'équipe, c'était un projet d'établissement et finalement, je l'espère et je le crois, aussi un projet de territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un événement autour de ça, d'où le fait de créer un événement, de communiquer, de fédérer des publics autour de cette démarche, avec la démarche initiale, Louvre-Lens 2030, qui s'est tenue dans le musée et à l'extérieur du musée, pour laquelle on avait une petite identité graphique, une punchline, des goodies, c'est important aussi, des moments et une communication dédiée, ce qui nous a permis là vraiment de regrouper les publics et de les écouter et d'avoir une qualité d'écoute et une qualité aussi d'information qui soit la meilleure possible. C'était notre point de départ, c'était important que ce soit solide.
Parfait. Natacha Lacroix, Dominique de Fonréau, vous avez été impliquée à des titres divers dans un processus de maturation assez long. Quel regard vous portez, vous, de votre point de départ à vous, sur cette espèce d'alchimie qu'il fallait trouver collectivement ?
Peut-être, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais saluer la manière dont ça a été fait, parce que pour les musées français, c'est une manière très originale, très singulière. Ce sont des processus qui ont déjà été adoptés par certains musées américains, notamment le Brooklyn Museum ou le Detroit Institute of Art. D'ailleurs, à Detroit, on est dans une situation aussi de difficulté du territoire après la désindustrialisation, donc ce n'est pas si éloigné. Mais en France, c'est assez rare de l'avoir fait, ou même d'ailleurs tout à fait singulier. Et il y avait une très grande ambition, et j'aime beaucoup ce que Juliette a dit dans cette idée que définir le projet est déjà le projet lui-même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a un peu tendance dans notre période, dans notre oui, période contemporaine très efficace à vouloir que le projet soit l'efficacité du rendu. Or, il me semble que le chemin compte et que dans projet, il y a cette idée de projection, c'est-à-dire de se porter en avant vers quelque chose et qui doit à la fois être un mouvement dynamique et qui doit aussi réunir le plus possible les uns et les autres des acteurs. C'est-à-dire qu'un projet scientifique et culturel, ça ne peut pas être descendant. Mais là, le travail qui a été fait par Marie Lavandier, par Juliette Guéprat, par l'ensemble de l'équipe, ça a été vraiment un travail de lien, de réunion, tout à fait formidable, et y compris dans la soumission, hein, puisque moi j'appartiens, comme vous disiez tout à l'heure, au conseil d'administration de Louvre-Lens. J'en suis très fière d'ailleurs, hein, d'appartenir à ce conseil d'administration. Et ça nous a été présenté dans la démarche et ensuite dans le rendu. Et je crois que ça aussi, c'est très important. C'était une manière de dire, voyez, on fait quelque chose de différent et on demande aussi votre soutien et votre assentiment sur la démarche, pas simplement pour ce qui sera fait in fine.
Pour le dire autrement, il n'aurait pas ressemblé à ce qu'il est si la démarche n'avait pas été celle qui a été adoptée.
Ah, ça, c'est tout à fait vrai.
Très bien. Mmh. Natacha Lacroix, vous avez participé dès le début, dès ce mois de mars, ce printemps 2018,
même
et même avant, d'accord. Quel regard vous portez sur ce long chemin?
Moi, je partage complètement votre point de vue. C'est, alors, je ne suis pas du tout experte de ce milieu, mais du point de vue de la méthode, de la gestion du projet, c'est assez exceptionnel. J'ai pu avoir la chance d'être impliquée immédiatement parce que je suis ici à plusieurs titres. Je suis à la fois une voisine, je suis une visiteuse assidue du musée, du parc. Je travaille auprès de la jeunesse et le musée est toujours inclusif et pense tout le temps à ses partenaires et pense tout le temps à la jeunesse, à l'éducation, donc le milieu auquel moi j'appartiens. Donc Juliette est venue très très vite vers nous pour nous présenter l'ensemble de cette méthodologie qui moi m'avait paru tout à fait incroyable d'ambition, incroyable d'exhaustivité, incroyable. Je lui avais même dit à l'époque, mais réussir ce projet-là de cette façon-là, ce sera sûrement exceptionnel et unique peut-être en son genre. Je ne savais pas qu'à l'époque c'était à ce point-là unique en France en tout cas. Et tout de suite, donc, nous, on a été impliqués pour la partie consultation du public, mais pas que le public des visiteurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours au musée le souhait de faire intervenir et de parler au plus grand nombre et à ceux qui ne sont pas naturellement des visiteurs ou des visiteurs qui ne sont pas très assidus. Donc on a été sollicité pour réaliser des enquêtes et en particulier donc une enquête un peu quantitative et aussi une enquête plus qualitative à travers des focus group qu'on a spécialisés en fonction des catégories de public.
Ouais, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est intéressant ce mot incroyable, vous l'avez dit plusieurs fois,
oui.
Donc c'était incroyable, mais
incroyable.
Vous y avez cru quand même.
Ah oui, on croit toujours à l'incroyable avec le musée du Louvre-Lens.
Le Louvre-Lens, du rêve à la réalité.
Alors, après cet aperçu sur le déroulé temporel de la conception du PSC, j'aimerais revenir, si vous le permettez, sur un autre aspect. Je citais Marie Lavandier tout à l'heure. Une expression m'a frappé, cette idée que le musée en 2018 peinait à se raconter. C'est important, le récit. Est-ce que vous partagez ce regard? Et bien, on va en profiter parce que c'est l'occasion pour un musée comme le Louvre-Lens. Ça représente quoi, un PSC? C'est quoi? À quoi ça sert, si je peux le dire aussi brutalement que ça? Et en quoi ça contribue à dessiner, à raconter ce récit?
Ah, à quoi ça sert un PSC? D'abord, c'est une obligation légale, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne peut être musée de France que si on a rédigé son PSC. Donc ça, je pense que c'est important malgré tout, parce que ça donne une légitimité et ça donne aussi une légitimité qui n'est pas individuelle pour le musée, mais qui lui permet d'appartenir à une communauté de ces musées de France, un peu dans un pays, hein, le nôtre, dans lequel cette notion muséale est très forte. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais au-delà de ça, un PSC, c'est quelque chose qui doit à la fois montrer une direction, donner un guide et des consignes tout en étant plastique, tout en se permettant de s'ouvrir vers ce qui se passe, s'ouvrir vers la société, s'ouvrir vers les changements du monde. Donc ce serait terrifiant un PSC qui serait une autoroute extrêmement cadrée et dans laquelle on pourrait avoir aucun changement. Alors là, ce serait vraiment le PSC qui, à mon avis, raterait son but complètement. Le PSC, ça doit être plastique. Et pour être plastique, il faut donc qu'il soit à la fois, bien sûr, extrêmement bien écrit et emportant cet enjeu de vision d'ensemble, mais aussi susceptible d'être évalué et susceptible aussi de faire des pas de côté. Et ça, vraiment, c'est un des points essentiels. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le récit est absolument vraiment formidable et un point qui doit être souligné. C'est-à-dire qu'un musée, c'est par essence une histoire, des histoires qui sont racontées. J'ai coutume de le dire pour le Louvre, mais c'est vrai pour le Louvre-Lens. Ce sont des musées qui sont des réservoirs à histoire, qui sont des terrains d'aventure, qui sont des endroits où finalement le rapport est moins un rapport à l'éducation immédiate qu'un rapport à l'éducation de soi par ce biais du récit. Donc c'est important d'en écrire la narration. Et je crois que la volonté de Marie et de Juliette de s'exprimer comme cela a été très inventive et en même temps absolument nécessaire à ce moment-là.
D'accord. Juliette, j'imagine que quand on conçoit le deuxième PSC d'un musée neuf en 2018, ce n'est pas la même chose que quand on prépare un nouveau PSC au Louvre, un musée qui a plus de deux siècles. Comment est-ce que, quelle est la spécificité d'un PSC dans un musée comme le Louvre-Lens ? Encore une fois, tout récent, il a 5 ans en 2018.
Alors en 2018, effectivement, il avait 5 ans. Et la mythologie qui entourait notamment l'inauguration du Louvre-Lens était en train de se cristalliser. Et on avait deux choix. Soit devenir un musée, un grand musée de région traditionnelle, soit continuer sur cette voie qui était celle que le Louvre avait tracée dans le premier PSC de 2008, qui est un projet extraordinaire et qui nous a donné notre identité, soit continuer à explorer cette voie de Louvre autrement, de laboratoire muséal, de musée d'art et d'essai. Ce sont des termes qu'on trouve dans le premier PSC. Et qu'il fallait du coup réinterroger, se réapproprier. Donc l'idée était de reprendre du souffle, d'aller plus loin. Il n'était pas question finalement d'amélioration, de points négatifs. Évidemment, il y avait quelques sujets à traiter, mais il était surtout question de faire progresser le modèle, de continuer à explorer ce modèle des musées du 21e siècle, tourné vers les publics, dans une démarche d'excellence, partageant les collections nationales et des savoirs, mais aussi des sentiments, des émotions et de la beauté. Donc le point, il était là, est-ce qu'on va devenir un musée traditionnel ? Vous aurez compris que, évidemment, la réponse, c'était non. Et de le remettre en récit, effectivement, de se réapproprier les termes, de trouver de nouvelles façons de le raconter et d'aller plus loin, ça, c'était vraiment les enjeux de ce projet scientifique et culturel.
Natacha, quand on est de l'autre côté, j'allais dire, vous l'avez dit, vous êtes une visiteuse assidue, vous partagiez en 2018 cette idée qu'il y avait peut-être encore quelque chose d'autre à aller chercher, à aller trouver ?
Alors je pense que pour un musée comme le Louvre-Lens, qui a dessiné une voie singulière, la voie d'un Louvre autrement, la voie d'un musée qui inclut tous ses publics, je pense que ce questionnement-là, il doit être permanent, et il l'est. Hein. À cette occasion, la consultation a été peut-être plus importante que d'habitude, mais c'est de toute façon un penchant et une habitude du musée de travailler de cette façon-là. Et c'est vrai que les publics, alors peut-être là je m'avance un peu sur les résultats de cette consultation, mais à la fois les publics de visiteurs assidus étaient en pleine conscience du projet du musée, étaient en pleine adhésion de ce projet et le trouvaient formidable. Pour faire court, autant on savait que les publics moins aguerris des pratiques culturelles avaient, eux, et notamment les publics locaux, les jeunes, ceux qui viennent moins souvent dans les musées, les voisins aussi, pour certains d'entre eux, avaient vraisemblablement une vraie envie de dire quelque chose et avait quelque chose à dire.
D'accord. Ça fait le pont avec une question qui est à mon sens importante, j'imagine que vous le partagerez, c'est celle de la responsabilité du Louvre-Lens au cœur du bassin minier. On connaît l'ADN de ce projet, la raison d'être même du musée, on l'a un petit peu évoqué à travers l'exemple de Détroit tout à l'heure. Comment est-ce que le PSC, à ce moment-là, est-ce que le PSC devient à nouveau à la fois une façon d'intensifier cette relation, cette responsabilité presque du Louvre-Lens sur son territoire?
Alors, le fait que vous posiez la question et marque bien, je crois, la réussite du projet scientifique et culturel sur ce point-là. Parce que l'un des objets, c'était effectivement de définir très précisément quelle responsabilité le musée prenait sur le territoire, responsabilité muséale, donc il y a la question de la qualité des expositions, la qualité des savoirs partagés, la qualité de la pédagogie qui est absolument centrale chez nous, et donc la portée de diffusion qui est attachée à la notion même de musée et d'éducation aussi, mais il y avait tout le champ de responsabilité non culturelle, non muséale, autour desquels on tournait depuis 2012, mais qui n'avait pas été défini à proprement parler, sauf dans la parole politique. Donc, le projet scientifique et culturel a fait une avancée considérable sur ce point-là, notamment avec les engagements, les 5 engagements du Louvre-Lens qui figurent dans le projet scientifique et culturel. Engagement pour l'écologie, pour lutter contre l'illettrisme et le décrochage scolaire, engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, engagement pour la santé et le bien-être des visiteurs. Il m'en manque évidemment un, mais il va revenir. Donc, sur ces points-là, effectivement, le musée agit, sort peut-être un petit peu d'un périmètre muséal, mais en fait, ce qu'on expérimente depuis 2012 et depuis le PSC encore plus ardemment, c'est vraiment des démarches intersectorielles avec des partenaires qui bénéficient au public et qui permet, par exemple, j'ai trouvé le dernier engagement, à des jeunes de plus facilement retrouver un emploi dans le cadre d'un partenariat avec Pôle emploi. Donc on s'est arrêté sur des points saillants, des points problématiques du territoire pour accompagner le territoire à notre manière, avec les moyens qui sont les nôtres, et ils sont finalement extrêmement forts et extrêmement puissant pour jouer collectif aussi à l'échelle territoriale et pour les habitants.
Moi, ce que je trouve intéressant dans la manière dont ça a été fait, c'est que évidemment, on le disait, c'est à la fois très neuf, mais c'est une nouveauté que je trouve particulièrement forte parce que c'est une nouveauté qui s'intègre et qui est héritière de l'utopie du musée lui-même et de la fondation du Louvre lui-même. C'est quelque chose auquel j'aime bien revenir, hein, c'est de dire que la création du Muséum Central, hein, ce qui est devenu le musée du Louvre, c'est la toute petite partie réalisée de l'utopie du Lumière. Il y a une dimension utopique dans le musée. Et ça, il faut toujours la garder. Et je trouve qu'en ayant choisi cette démarche-là pour le projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, Marie Lavandier, Juliette et toute l'équipe du musée ont choisi aussi de réaffirmer combien le musée était une utopie et combien le musée était inscrit dans la société. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à voir les musées comme des îles, comme des îlots, comme des choses qui sont en dehors de la société. Pas du tout. Le musée est ouvert sur la société et la société doit être ouverte au musée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il n'y a pas de non-public pour le musée. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je réfute assez fortement et on l'a bien vu avec la démarche qui a été adoptée ici. C'est que même ceux qui n'y viennent pas, s'intéressent au musée et ont des choses à dire. Et je crois que c'est parfois un grand tort de l'ensemble des institutions muséales, c'est de ne penser que par rapport à ceux qui viennent, à celles et ceux qui viennent. Or, en fait, tout le monde est le public du musée, notamment en France, où, et c'est une grande fierté pour nous, hein, où la création du musée est une des premières décisions prises par la Première République. Le musée est le fondement de notre République française.
Très bien. Ça fait le pont avec une autre question. Quand le travail s'est lancé au sein des équipes du musée, très vite, des mots ont émergé au sein des groupes de travail. Il y a eu 5 groupes et je crois que c'est à chaque fois 4 grands mots avec des grandes majuscules qui émergent. J'en cite quelques-uns parce qu'encore une fois, il doit y en avoir une grosse quinzaine. Mais on voit apparaître des thèmes comme l'humanisme, la générosité, l'expérience. Ça, c'est des mots qu'on associe assez facilement au monde des musées. Et puis, il y en a d'autres, dont un qui m'a frappé, par exemple, l'humilité, l'écologie, la simplicité, l'accessibilité. Ce n'est pas forcément des mots auxquels on pense tout de suite. Il y en a un autre qui est très étonnant, c'est le mot de performance, qu'on n'est pas nécessairement habitué à entendre dans le monde culturel. On ne va pas creuser chacun de ces mots qui sont, chacun est à lui seul un programme, mais comment est-ce que ces valeurs ont émergé? Comment se sont construits ces groupes de travail?
Alors l'idée, c'était effectivement de partir des valeurs qui étaient attachées au musée ou attachées au projet futur du musée pour commencer à travailler. Donc là aussi, on reprend cette notion d'utopie et de valeur pour s'appuyer sur une démarche entière. Donc, il y a certains mots qui viennent du premier projet scientifique et culturel, dont on a fait une relecture très très attentive pour relever effectivement les mots clés. Il y a des mots qui viennent tout simplement de l'actualité et des mouvements de société. Je pense à l'écologie qui est une lame de fond et tant mieux. Et il y a des mots qui sont attachés tout simplement à l'organisation que nous sommes, un établissement public, donc amené à considérer sa propre performance, donc à savoir la réussite de l'atteinte de ses objectifs de manière si possible quantifiable, etc., etc. Donc ce qui était intéressant dans cette façon de penser ces groupes de travail, parfois certains mots étaient mis l'un à côté de l'autre dans un groupe de travail pour les mettre en tension. Je pense notamment à ce groupe de travail qui devait travailler à la fois sur la question de la générosité et sur la question de la performance, comment on est performant en étant généreux. L'idée était de mettre ces termes en tension pour trouver une réponse qui soit pacifiée, apaisé, clair, aux yeux de tout le monde. Donc on a pris parfois les sujets par le grand écart. Hein. Mmh. On a fait des grands écarts, ce qui nous a permis aussi d'atteindre au final une position, un projet d'une grande cohérence, aligné aussi. Une démarche aussi à laquelle je tiens beaucoup, dans la conception de ce projet, c'est que toutes les questions qu'on a pu se poser, on les a posées au même moment, à 3 échelles. D'abord, on se posait la question pour le public, ensuite pour les équipes en interne et pour les partenaires. Donc, je prends un exemple. Comment être participatif quand on est un musée? Avec le public, comment être participatif avec un public? Comment être participatif dans notre organisation interne, comment être participatif et collaboratif avec nos partenaires. Et on essayait d'apporter une réponse qui soit cohérente sur ces 3 volets, de manière à effectivement avoir un projet le plus complet, le plus cohérent, le plus simple aussi, finalement, possible.
D'accord. Dominique de Fonréau, j'ai envie de vous poser une question. On l'a dit, on ne part pas tout à fait de rien, mais par contre, si j'ai bien compris, on se donnait la liberté de quasiment tout explorer. Mais encore une fois, il existe déjà des bases. Un premier PSC, l'expérience des 5 premières années du musée, de sa conception, qui remonte encore plus loin. On ne part quand même pas complètement à l'aventure. Est-ce que, de votre point de vue, vous aviez déjà quand même, alors pas des attendus, mais un cadre général, une sorte d'attente un petit peu précise? Ou est-ce que, la page était complètement blanche?
C'est complexe parce qu'elle était à la fois complètement blanche et déjà écrite. Alors vraiment, vous allez dire que je ne vous réponds pas, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Complètement blanche parce qu'il y avait, comme Juliette l'a souligné tout à l'heure, la nécessité, hein, c'était une analyse qui était partagée entre le Louvre et le Louvre-Lens, hein, la nécessité de peut-être pas refonder le musée, parce que c'est trop tôt au bout de 5 ans, mais en tout cas de se poser la question et de se poser la question de son rôle, comme Juliette l'a très bien dit tout à l'heure, hein, entre un musée de grande qualité de région ou entre un musée qui serait vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était quelque chose qui était perçu par tout le monde, donc la page était de ce point de vue-là complètement blanche. Et puis, elle était en partie déjà écrite, parce que dans Louvre-Lens, il y a Louvre, et que cette part-là, elle est évidemment fondamentale. Elle ne peut pas être gommée, donc elle implique un certain nombre de choses et qui sont, encore une fois, je pense, des choses fortes et des choses qu'on essaye, en tous les cas, dans le lien qu'il y a entre le Louvre et Louvre-Lens, de ne pas exercer comme quelque chose de contraignant ou comme une tutelle qui serait là pour surveiller, mais au contraire, comme une manière de se réinventer. On a coutume de dire, et moi je le dis souvent, que le Louvre-Lens est un laboratoire pour le Louvre. Donc ça permettait aussi d'explorer des choses qui sont plus difficiles à explorer au Louvre, mais qui sont contenues par le mot Louvre, par les valeurs du Louvre. Et donc, du coup, en partie, elle était déjà écrite. Donc c'est pour ça que c'était un exercice vraiment très singulier, pas facile. Les choses trappes étaient nombreuses, hein, ça aurait pu à plusieurs reprises se dire bah, finalement ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça a fonctionné par l'élan donné, c'est-à-dire le grand risque, ça aurait été de penser en chambre avec des gens très très intelligents, très très bien formés, des collègues, etc. Enfin voilà, des gens pour qui j'ai évidemment le plus grand respect, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais de penser en chambre et d'oublier combien. Le musée, c'est une aventure collective et c'est une aventure partagée. Et le fait d'avoir fait ça fait que tout d'un coup, on a pu écrire la page tout en respectant les grands enjeux initiaux du musée du Louvre et du musée du Louvre-Lens.
Une petite anecdote là-dessus. On avait fait l'exercice avant de lancer l'intégralité de cette démarche, avant Louvre-Lens 2030, d'écrire le plan d'un projet scientifique et culturel du Louvre-Lens un peu en chambre. Je l'ai toujours, ce plan. Hein. Alors, il est parfait. Enfin, il est très bien. Hein. Il est très académique. Il répond à tout. Mais il est tellement moins humain, accessible. Il manque tellement d'idées. On a pu mesurer, en fait, le chemin parcouru pendant ces 15 ou 16 mois de démarche, notamment en regardant ce point de départ, voilà, une copie de très bon élève, et le point d'arrivée qui a quelque chose de l'enthousiasme, du mouvement, du dynamisme et de la simplicité et de l'humilité aussi. On a gagné en humilité dans cette démarche.
Ça fait le pont avec ce qui sera le deuxième temps de cette émission. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur une dimension qui a été déjà abordée, qui est manifestement fondamentale, c'est le côté participatif du PSC. En préparant cette émission, je me suis dit, c'est marrant, c'est un peu le PSC dont on est le héros. Cette idée que chacun, dès le départ, peut s'y impliquer, qu'on va aller chercher tout le territoire, les habitants, les voisins, pas seulement les voisins, au-delà, les partenaires, dans ce qui est devenu cette jolie expression là d'un Louvre-Lens à mille mains. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand on regarde le document, la longue liste sur plusieurs pages de toutes les personnes impliquées. Rien que ça, ça dit beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le sens de cette démarche, sur le choix de cette méthodologie dont on peut se dire elle complique quand même vachement la vie. On est parti pour un long moment. Est-ce que c'est facile à monter?
Alors, la méthodologie, on a mis 6 mois à l'écrire. 6 mois à l'écrire et autant à douter, en fait. Hein. Parce qu'effectivement, c'était très, très, très ambitieux. Nos objectifs n'étaient pas du tout smart, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément atteignables, mesurables, mesurés non plus. Vraiment, c'était un effort collectif, Marie Lavandier a vraiment souhaité et a mis les moyens aussi, a permis que ce soit possible. Donc la démarche participative initiale, elle était fondamentale et il fallait aussi lui laisser sa plasticité. Parce que quand on rencontre les publics, On ne sait jamais ce qui se passe pour tout à fait. Faut surtout pas figer les choses. Et on l'a vu avec les focus group, hein, Natacha. Les premiers focus group avec les visiteurs et les visiteuses, on en a programmé, souviens-toi, 6. C'était un grand tunnel pour toi d'ailleurs. Il y en avait le matin, l'après-midi, pendant plusieurs jours d'affilée, avec des publics volontaires qui s'étaient inscrits, qui avaient beaucoup de choses à dire. Et une fois qu'on a fini cette démarche, on s'est dit, ah mince, il nous manque des choses. Et c'est là que Natacha est intervenue.
De quelle manière, Natacha ?
On est allé chercher tous les publics. Ouais. Donc les voisins, les étudiants, les publics les plus proches comme les plus éloignés du musée. Et on a appliqué cette même grille d'analyse, ce même mode de questionnement, avec des résultats qui ont été à la hauteur, je pense, des attentes du musée. Et exactement comme vous le disiez, c'est-à-dire que chacun veut avoir sa part du musée, chacun a quelque chose à dire du musée et chacun est fier d'appartenir à ce projet. Pour l'anecdote aussi, moi j'ai des copains de focus group maintenant, donc des copains de PSC. Je rencontre encore récemment, hein, bureau de vote, dans une salle d'attente de cabinet médical au cours des mois qui ont précédé. Je rencontre des gens qu'on a pu interroger et qui ont adoré ce moment-là et qui ont vraiment... Moi, j'avais quand même une vraie interrogation sur la capacité de chacun à interagir et à se prononcer au sujet des valeurs, par exemple, que porte un musée très académique quand on fréquente peu ou pas, ou quand on est jeune, public. Et ça ne posait problème à personne. Et tout le monde avait des souhaits et des envies. C'est vraiment beau. J'ai eu aussi, dans la catégorie anecdote, quand je fréquente le parc, quelques voisins me disent, vous avez vu, hein, ils ont fait ce qu'on a dit.
Formidable, j'adore ce ils ont fait ce qu'on a dit. Parce que, alors là, vraiment, ça souligne quelque chose du fait que le musée est aujourd'hui, dans notre société quand même un peu complexe, un des derniers lieux de rassemblement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est que le musée, comme institution, et le musée du Lens particulièrement, mais, et ça, je pense que c'est très fort. Et on a fait ce qu'on a dit, c'est l'impression du coup d'appartenir à cet ensemble et que le musée peut provoquer.
Et puis il y a presque une dimension de loyauté finalement. Ouais. On se dit que le temps qu'on a passé à réfléchir ensemble se solde non pas par une promesse, mais par une réalité. Ouais. Il y a quelque chose qui est frappant. Quand on dit les publics, c'est vraiment tous les publics, parce que je crois que vous êtes allé même chercher des enfants, des jeunes enfants. Je crois que... Alors, on ne recueille forcément pas la parole des enfants comme on récolte la parole des adultes. C'est passé par le dessin, c'est ça, Juliette ?
Oui, on a fait dessiner des petits visiteurs. On leur a fait dessiner le musée en 2030.
Ils avaient quel âge ?
Alors, ils avaient à peu près tous les âges. Alors, on a des dessins un peu abstraits, de tout petits, de 2-3 ans, tout à fait mignon. On a des adultes, hein, aussi qui se sont exprimés par le dessin, mais beaucoup de dessins d'enfants entre, je sais pas moi, 5 et 12 ans, on va dire. Et alors, le musée en 2030, c'est plein de fusées, de dinosaures, de momies, évidemment, on est au Louvre, mais surtout, on y vient en hoverboard, en fusée, en tapis roulant. Enfin voilà, y a la problématique de la mobilité était omniprésente dans ces dessins. Le musée est aussi numérique, virtuel, il vous accompagne, on y joue dedans et on y joue dehors. Donc la question des jeux pour les enfants à l'extérieur dans le parc était un vrai sujet et point extrêmement sensible dans ces dessins, c'est l'écologie. Alors le musée est en 2030 est doté de panneaux solaires, etc. Il y a des potagers partagés. Alors les potagers, ils existent, hein, aujourd'hui. Et en fait, dans ces dessins, on avait énormément de matière. Donc on les a dépouillés de façon très, très minutieuse pour relever les thématiques qui revenaient le plus souvent. Ça a été l'une des sources d'inspiration les plus puissantes qu'on ait eues pendant toute la démarche. Je les ai même ramenées avec moi là, pour les regarder avant de vous parler et les montrer un petit peu. Voilà, c'est vraiment, on en a 130 et ils sont tous merveilleux.
On a un petit peu de mal à s'imaginer comment ça s'organise, ce travail-là. Est-ce qu'on met littéralement des enfants dans une pièce avec des adultes à côté? Comment est-ce qu'on organise le recueil de cette parole? Est-ce qu'on mélange tout le monde ou est-ce qu'on essaye de, quand même de segmenter un petit peu?
Alors, on mélange tout le monde et en revanche, on offre des moyens d'expression et des moyens de communication adaptés à chacun. Donc, l'idée pour cette démarche, on s'est installé pendant 10 jours, je crois, dans le musée, on a reconstitué un salon, on a fait un petit salon à la sortie de la Galerie du Temps, le salon 2030, avec des kakémonos, avec des goodies aussi, enfin voilà, un peu de matériel qui nous permet d'être identifiés auprès des publics. Il y avait une petite équipe dédiée à l'animation de ce salon et l'équipe PSC. Alors, je salue d'ailleurs Dimitri et Pierre qui nous ont accompagnés sur toute la démarche et qui ont fait un travail absolument formidable. Il y avait aussi l'équipe de médiateurs et de médiatrices qui nous ont accompagnés. Donc il y avait une variété d'outils à la disposition des publics pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc on avait effectivement des planches vierges de BD pour les ados, des planches de dessin, tout un tas d'ateliers pour les adultes ou pour les plus jeunes. Et après, à nous de nous emparer de cette matière et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de l'étudier proprement, de manière à ce qu'on puisse s'en servir dans la démarche. Et donc je suis très très heureuse d'entendre qu'on a réussi à faire ce qu'on nous avait demandé de faire, ou ce qu'on avait voulu faire, parce que ça veut dire qu'on a bien respecté cette parole, la notion de loyauté. Je l'aime beaucoup, je ne l'avais jamais verbalisé, mais il y avait une exigence de loyauté envers les publics, mais aussi envers les agents et les partenaires dans ce projet qui était vraiment une des conditions de réussite de l'écriture de ce projet.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Très bien, Natacha, quand on a connu toutes les phases de ce projet, alors le temps a passé, c'était il y a 4 ans, quel regard vous portez avec le recul sur ça? C'était comment?
C'est un vrai beau moment. J'ai l'habitude de réaliser des enquêtes en tant qu'enseignant-chercheur, c'est un peu, on va dire, ma spécialité. Mais cette étude-là, elle restera gravée dans ma mémoire, comme elle est restée gravée dans la mémoire des publics, en fait. Hein, parce que tout y était, tous les ingrédients étaient réunis. On a eu beaucoup de chance, hein, on nous a mis à disposition le salon des mécènes, c'était mon bureau. C'était mon bureau pendant un mois. C'était assez fantastique. Et puis, il y avait tout cet élan, hein, que vous évoquez tous, avec tout le monde est content, tout le monde veut venir, tout le monde veut participer, tout le monde a quelque chose à dire, et tout le monde veut s'emparer de ce projet. J'ai eu, moi, quelques craintes, hein, je l'ai dit précédemment, je me disais peut-être ça va être difficile, ces questions de valeur, du projet de 2030, comment en 2018 on envisage un 2030 quand on n'est pas dans ce monde-là, est-ce que, voilà. Et tout le monde a répondu, tout le monde avait des propositions, tout le monde souhaitait s'emparer de ce projet. Avec quelquefois des choses qui sont beaucoup revenues, notamment sur les valeurs. Vous avez beaucoup parlé des valeurs, vous avez parlé de république et de démocratie. Alors je vais les lire. Les valeurs qui sont revenues par tous, hein, les trois valeurs principales, c'est liberté, humilité, démocratie. Y compris avec les publics les plus éloignés. Et c'est quand même fantastique.
Ouais, c'est formidable, ça.
Donc ça, c'était émouvant aussi.
L'atmosphère dans ces séances, c'était quoi? C'était studieux, c'était du plaisir, c'était les deux?
Ah, c'était très studieux et c'était beaucoup de plaisir. Dans les focus group, souvent, on a des effets de biais, parce que des effets de groupe, conformisme ou de leadership, enfin, des effets indésirables, on va dire. Ça n'a pas du tout été le cas, là. D'accord. Il y a eu un véritable partage de la parole, tout le monde s'exprimait volontiers et chacun amenait sa pierre à l'édifice sans aucune crainte, en fait.
Dominique de Fonréau, face à... C'est marrant, il y a de l'émotion hein, dans, quand oui, on, oui, quand on revient fait. Sur ce, cette fait. Étape. Est-ce que cette démarche menée à Lens a, d'une façon ou d'une autre, amené, j'allais dire votre Louvre, le Louvre de Paris à tourner le regard sur lui-même et à se dire, il y a des choses... Encore une fois, on a souvent parlé de musée d'art et d'essai à Lens. Est-ce qu'il y a des choses où on se dit, tiens, ça, c'est quelque chose qu'on peut décliner à notre manière, évidemment, à Paris?
Bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, le Louvre-Lens, c'est aussi un laboratoire pour le Louvre. Hein. Je crois que ça, c'est intéressant. C'est un musée en tant que tel, hein, complètement différent du Louvre, mais c'est aussi, les liens sont forts et c'est vraiment un laboratoire. Et vraiment, de façon tout à fait franche, hein, dans ce rapport au public, il y a beaucoup à apprendre du Louvre-Lens, me semble-t-il. Hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée par Laurence Descartes, la présidente directrice du Louvre, je réfléchis aux enjeux des publics hein, du Louvre et à la manière de donner place et évidemment je suis nourrie par ce que je vois à Lens, c'est pour ça que je suis très heureuse hein, d'entendre là à l'instant Juliette et Natacha parler hein, de la manière dont ça s'est passé au quotidien hein, dans le rapport avec les groupes. Il y a une force de l'inspiration, je le trouve, très très grande. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a de l'implication. Et ça, c'est évidemment une ligne directrice. Alors après, les enjeux du Louvre ne sont pas exactement les enjeux du Louvre-Lens, ne serait-ce que parce que le territoire du Louvre, en tant que territoire pour des visiteurs réguliers, c'est la France, c'est même l'Europe. Donc, du coup, c'est, voilà, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Mais je pense que dans cette manière de faire participer les publics à la réflexion, ça c'est vraiment quelque chose à laquelle on est en train de réfléchir pour voir comment on peut le faire, renouer avec les focus group, mais peut-être aussi à un moment ou un autre, à un moment donné, penser à un comité des utilisateurs par exemple, de manière à pouvoir établir ce lien direct qui est absolument essentiel. Ce que disait Juliette à l'instant, c'est que le plan qu'ils avaient fait, qui avait été fait pour le PSC au sein du Louvre-Lens, c'était très bien, et ça, je n'en doute pas, mais qu'ils n'avaient pas cette profondeur, cette matière, cette chair, cette vivacité qu'a finalement le PSC final. Donc je pense que là aussi, c'est quelque chose au Louvre dont on a intérêt à s'inspirer, me semble-t-il.
Parfait. Il me reste une dernière question, parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure, mais je ne vais pas vous lâcher là-dessus. On parlait d'anecdotes tout à l'heure, j'ai prononcé le mot bergerie, et puis il a disparu de la circulation. J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de bergerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on fait un PSC au milieu des chèvres?
Alors, on voulait réunir une partie de l'équipe pour écrire le plan du projet scientifique et culturel. Donc c'est la colonne vertébrale, c'est un exercice qui est compliqué. Il y avait 25 personnes à réunir. La solution facile aurait été soit de rester ici, mais pour ce genre de travaux, en général, on préfère partir à l'extérieur. L'autre solution aurait été d'aller dans un musée, ce qui aurait été très inspirant. Mais voilà, évidemment, vous aurez compris qu'on aime bien faire les choses différemment. Et il se trouve qu'à Riolet, pas très loin d'ici, sur un terri, un autre projet, quelque chose d'alternatif, avec des gens absolument formidables, a vu le jour il y a quelques années, une bergerie agricole. C'est comme ça qu'on dit. Donc ce sont des chèvres, hein, mais on peut faire des séminaires, y manger, y rester, au milieu des chèvres. Donc on a fait notre séminaire là-bas, donc à 25, pendant 2 jours. On a mangé, on a très bien mangé, on a fait la transhumance, on est monté sur ce terri, donc il y avait quelque chose d'un peu initiatique, de rituel, tous ensemble. C'était en octobre, il faisait merveilleusement beau, un peu comme aujourd'hui. Et voilà, l'idée était de revenir aussi aux racines du territoire. On était sur un terri, il se passait quelque chose de résilient ici, de fédérateur, de joyeux. Il y avait la question de l'écologie qui était finalement très très présente et qui était vraiment structurante dans le projet scientifique et culturel, et surtout dans ce qui remontait du travail des agents. Ça, c'était absolument considérable. L'écologie serait structurante de l'intégralité de nos actions. Donc, c'était le bon endroit pour le faire. On s'est beaucoup amusé. Effectivement, l'odeur qui nous est restée le soir dans la voiture en rentrant était particulièrement saisissante. Et j'y suis retournée il y a 2-3 semaines. Ils se souviennent évidemment de nous parce que voilà, tout le Louvre-Lens qui débarque comme ça au milieu des chèvres, ça laisse un souvenir, mais on se souvient très très bien d'eux et d'ailleurs je leur ai fait un petit coucou.
Très bien.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
On en vient maintenant au troisième volet de cette émission. Un volet incontournable, évidemment, c'est celui du caractère opérationnel, des actions concrètes qui découlent d'un PSC. Il y a quand même un petit élément de calendrier qui est l'éléphant au milieu de la pièce, on ne peut pas vraiment le rater. Le PSC a été voté à peu près au moment où démarrait ce qui allait devenir une pandémie mondiale. On a beaucoup parlé de pandémie, on ne va pas en faire évidemment des kilomètres là-dessus, mais... comment est-ce que ça s'est articulé avec le lancement du PSC? Est-ce que ça a été une difficulté dans l'articulation des premiers temps du projet?
Alors, le projet scientifique et culturel, effectivement, sa mise en tension a été un petit peu mise en difficulté par la pandémie. Et en même temps, ce projet a été une chance pour le Louvre-Lens pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'on savait exactement qui nous étions, ce que nous voulions faire, les champs d'intervention qui étaient les nôtres. Et à un moment où le monde entier est bouleversé, au moment où on ne sait plus exactement où on habite et comment on s'appelle, savoir dans le cadre professionnel vers où on va, ça a été d'une très très grande force. On a eu la chance d'être agile, d'être créatif, d'être réactif. Et je pense que c'est très lié au projet scientifique et culturel. Voilà, il n'y avait pas de question sur exactement comment on devait réagir, comment on devait le faire. La place du collectif aussi, qu'on devait maintenir à toute force pendant le premier confinement. Et ça, on s'est employé à le faire, c'était notre premier objectif. Maintenir le lien avec les publics, un lien véritable, un lien humain. Donc soit par Internet, par le digital, par le numérique, mais un lien aussi un peu plus analogique, un peu plus low-tech, un lien parfois qui passe par un petit journal, par des kits d'ateliers qu'on distribue. Donc voilà, on a su trouver notre façon d'exister, de continuer à agir pendant la pandémie. Et je crois qu'on a réussi à le faire particulièrement bien, notamment grâce au projet scientifique et culturel, mais aussi parce que ce projet, celui d'avant aussi, à quelque chose de l'ordre d'un projet de crise, d'un projet de résilience. On est paramétré pour ça, nous, Louvre-Lens. Et effectivement, on a ça dans notre ADN, que d'être là pour le territoire. Et cette posture très ouverte, à l'écoute des attentes et surtout des besoins, nous a permis de savoir...
Vous avez pu en tirer quelque chose au moment de la crise.
Oui.
D'accord. Alors, encore une fois, un PSC, c'est des actions concrètes. Au moment de les construire, de les fixer, comment est-ce qu'on fait le juste milieu entre les ambitions, qui sont élevées, encore une fois, tout à l'heure on a cité énormément de mots qu'on met d'habitude dans des cas avec une capitale au début, c'est des grands mots. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre l'ambition et le réalisme?
Le juste milieu entre l'ambition et le réalisme, c'est le temps qu'on se donne. C'est d'ailleurs pour ça que le projet est pensé à l'échelle d'une décennie, qu'il est écrit pour essayer de conserver cette plasticité dont on a véritablement besoin pour pouvoir travailler. Il y a certaines de nos ambitions pour lesquelles on a un certain nombre d'étapes à franchir, on a des expérimentations à mener, donc voilà, on va prendre le gâteau, le découper en tranches et franchir ces différentes étapes comme on monte un escalier. Donc parfois la mise en œuvre du projet scientifique et culturel, c'est simplement une progression. À d'autres moments, ce sont des moments de démonstration, des grands gestes. Il y en a eu beaucoup déjà depuis l'adoption du projet scientifique et culturel. Et cette année des 10 ans, puisqu'on est là aussi à cette occasion-là, est une très grande démonstration et aussi un moment, une étape clé dans la mise en œuvre du projet scientifique et culturel à bien des égards, puisqu'on s'est donné les moyens de réussir un certain nombre d'ambitions. Je pense particulièrement à l'exposition participative qui ouvrira en décembre prochain, qui est un projet qu'on rêve de faire depuis des années. Tous les musées en rêvent, hein. Mais ce sont des ambitions qui sont difficiles à réaliser. Là, on s'est vraiment donné les moyens dans un espace en plus magnifique du musée. Ce sera dans le pavillon de verre, un espace extrêmement noble. En ce moment, le scribe accroupi est installé dans le pavillon de verre. Eh bien, à partir de décembre, ce sera une exposition pensée par des jeunes.
Pour revenir encore une fois, et là la question s'adresse vraiment à toutes les trois, au moment de fixer encore une fois ces actions concrètes, est-ce que vous aviez des priorités? Est-ce que très vite vous vous êtes dit ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir se concrétiser là maintenant, après-demain, ou en tout cas avant tout c'est là-dessus que doit porter l'effort?
Alors lui... pardon. Pour la mise en œuvre du projet scientifique et culturel, tout est prioritaire en fait. L'idée, c'est vraiment de conserver une ligne directrice qui est assez complexe, qui est très riche. Les points distinctifs de ce nouveau projet scientifique et culturel ont fait l'objet évidemment d'un travail, plus fondamental. Je pense notamment aux engagements. Aux engagements pour la santé, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui font l'objet de démarches spécifiques, un peu innovantes. Par exemple, on a créé au sein du musée, dès début 2020, ce qu'on a appelé des groupes actions. C'est des groupes en interne qui fédèrent des agents du musée, de tous les services, qui se mobilisent parce qu'ils ont envie de se mobiliser sur tel ou tel sujet. Donc par exemple sur l'écologie, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces groupes de travail prototypent des actions. C'est comme ça qu'en mars 2020, avant la pandémie, on a fait une première journée de la femme, enfin une première journée internationale des droits des femmes, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler, programmée par ce groupe dans lequel il y a une personne des ressources humaines, une personne de la programmation de spectacle vivant, une personne des éditions, etc. etc. Donc, sur certains sujets, on organise la continuité de cette transversalité du projet scientifique et culturel pour prototyper, veiller, même avoir un rôle de vigie par rapport à certains axes de travail.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la partie la plus compliquée d'un PSC, de passer de l'élan généreux, idéaliste de la pensée aux actions. C'est là où il y a toujours un risque, parce que un double risque d'ailleurs, soit que les actions finalement n'arrivent pas à se mettre en œuvre parce qu'on ne trouve pas les possibilités à la fois humaines, budgétaires de les mettre en œuvre, soit qu'elles peuvent se mettre en œuvre mais qu'elles sont trop dispendieuses ou qu'elles ne sont pas compatibles avec la gestion d'un établissement public, parce que c'est aussi ça le Louvre-Lens évidemment. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que maintenant on est donc en juin 2022 et donc le PSC a pu se mettre complètement en œuvre depuis un an, hein, depuis le dernier confinement. En fait, ce PSC, il est non seulement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire généreux, vivant, ouvert sur le monde, mais il est couronné de succès. parce que c'est lui qui a permis la mise en œuvre de l'exposition, par exemple les Louvres de Picasso, avec une médiation très originale, avec des contacts avec les enfants. C'est lui qui permet la très belle exposition Rome qui a lieu en ce moment. Et vraiment, je conseille à tout le monde de venir la voir parce que c'est vraiment un enrichissement et on comprend aussi tout ce que notre société d'aujourd'hui doit à Rome. Alors ça, vraiment, je trouve ça c'est vraiment très frappant. Donc vraiment, et là aussi, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Mais c'est aussi, par exemple, ce qui a permis, j'en suis sûre, hein, la venue du scribe accroupi à Lens, hein, parce que c'est ce qui a donné la force à Marie de le demander à Laurence Descartes. Et c'est aussi ce qui a permis à Laurence Descartes de se dire, mais oui, ça vaut le coup d'y aller parce qu'il se passe quelque chose qui est vivant. Donc,
et ça a du sens.
Et ça a du sens. Et ça, je trouve ça formidable, vraiment, parce que c'est souvent là où ça achoppe. Et donc, ça montre que ce PSC, il est à la fois très innovant, mais il est aussi profondément inscrit dans ce qu'est ce lieu, dans ce qu'est ce lieu à la fois sur son territoire, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans son architecture, hein, parce que nous sommes en train de vous parler du Louvre-Lens, je vous le dis, nous sommes effectivement installés, et on a vu passer dans cette architecture transparente des enfants qui venaient visiter, des personnes du Louvre-Lens qui sont là, et je trouve ça très fort, il y a quelque chose de très profond, du grand succès aussi de l'architecture de Sanaa et de ce que le Louvre lance, qui en fait un lieu ouvert, avec cette interpénétration entre le territoire, le paysage et le musée.
Si je comprends bien, le PSC commence à irriguer, à infuser, à modifier aussi déjà vos méthodes de médiation, le choix des expositions, Juliette ?
Oui, en fait, c'est permanent. Ouais. C'est permanent. Il y a eu beaucoup de modifications dans la galerie du temps l'année dernière, qui trouvent leur point de départ dans le projet scientifique et culturel. Donc, avec la présentation d'une vingtaine d'œuvres du musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui permet d'élargir la géographie de la galerie du temps à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, à l'Océanie aussi, la présentation d'une œuvre contemporaine avec le panoramique de la falaise de Bamiyan de Pascal Convert dans la Galerie du Temps. Et je pense à un troisième moment qui a été un moment véritablement clé pour nous l'année dernière, puisque tout ça est arrivé à peu près au même moment. C'est le spectacle d'Anne-Thérèse de Kersmaeker qui s'est tenu pendant 2 semaines, cette performance dansée dans la Galerie du Temps qui... On arrivait à un point d'aboutissement de la galerie, dans sa transdisciplinarité, dans son ouverture sur le monde, dans son intelligence spatiale, dans sa très très grande émotion aussi. Voilà, donc là j'ai Brian Eno en tête, évidemment. mais voilà, il y a aussi des très grands moments, des très grands gestes dans l'histoire très très récente du Louvre-Lens qui trouvent leur appui dans le projet scientifique et culturel.
Très bien, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais conclure avec un mot de chacune de vous trois. Si vous deviez décrire cette expérience de la lente conception, maturation du PSC, comment est-ce que vous le décririez ?
Je dirais une aventure partagée.
Mmh. Natacha ?
Partagée et ambitieuse.
Mmh. Et Juliette ?
On a renoué avec les... Oh, c'est pas... Du coup, ce n'est pas qu'un mot. On a renoué avec l'origine du projet. Je pense aux signataires des signataires lensois, des registres qui demandaient à ce que le Louvre vienne à Lens et pas ailleurs. Pour moi, c'était ça qui était en jeu ici.
Parfait. Il y a un mot qu'évidemment vous avez tous été trop modestes, toutes étaient trop modestes pour prononcer, je crois que c'est celui de fierté. À mon avis, c'est un projet dont vous pouvez être fiers. Merci beaucoup à toutes les trois, Juliette Guéprat, Natacha Lacroix et Dominique de Fonréau. Merci d'avoir participé à ce nouvel épisode du podcast Le Louvre-Lens, du rêve à la réalité, que le musée a produit à l'occasion de son 10e anniversaire. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Nous nous retrouverons très bientôt sur une thématique différente, consacrée à cette fois à l'écrin qui entoure le Louvre-Lens, ce vaste parc qui fait entièrement partie du musée et qui occupe d'ailleurs toute sa place dans le projet social et culturel 2 que nous avons évoqué aujourd'hui.
Le Louvre-Lens, du rêve à la réalité.
Thank you.